Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mathieu Tordeur est un aventurier et conférencier membre de la Société des explorateurs français. Ses aventures l'ont mené dans plus de 90 pays sur tous les continents. Il est le premier Français et le plus jeune au monde à avoir rallié le pôle Sud en solitaire et sans ravitaillement. Mathieu enchaîne les expériences et aventures. Il a fait le tour du monde au volant d'une 4L pour promouvoir la microfinance, couru 6 marathons d'affilée dans le désert du Sahara, le marathon de Pyongyang en Corée du Nord, traversé 2 fois l'Europe à vélo, le Groenland en ski kite et l'Atlantique en voilier. Présent sur le festival Curieux Voyageurs pour projeter un documentaire, je lui ai proposé de prendre le temps d'enregistrer ensemble une émission Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, cette envie d'élargir sa vision sur soi, sa vision sur le monde à travers des parcours de vie, des expériences de voyageurs. Donc toi Mathieu Tordeur, donc tu voyages depuis le plus jeune âge. Je t'avais vu la première fois, c'était un documentaire que tu diffusais, vous étiez parti avec des 4L je crois, en Asie ou en Inde. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de prendre le temps de te rencontrer, découvrir un petit peu qui tu es, savoir ce qui t'a mis sur la route peut-être la première fois. On va commencer comme ça, donc reviens quelques années en arrière et comment est né en toi ce goût du voyage et de l'aventure?
Bah déjà c'est venu de mes lectures de Tintin en fait. Moi mes parents me racontaient que j'étais pas même en CP, que je savais pas lire, que je dévorais les aventures de Tintin et Milou. Et je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent ont lu déjà Tintin. Et ce qui est génial avec Tintin, bah, c'est qu'il va aux quatre coins du monde, il va en Inde, il va en Égypte, il va même sur la Lune. Et moi ces lectures de Tintin c'était vraiment ma fenêtre ouverte sur le monde, sur l'extérieur, sur le voyage, l'aventure. Et donc en grandissant en fait j'ai un peu voulu suivre mon petit héros quoi, et donc j'ai d'abord mené mes premières aventures en étant enfant mais dans un cadre de scout, du scoutisme. J'étais scout pendant 10 ans et au scout on apprend à faire des cabanes, à dormir dehors, à faire des feux, à monter des petits projets. Et en grandissant ensuite, en étant adolescent, j'ai commencé à prendre un vélo, à me balader un petit peu dans ma région qui était la Normandie. Et puis de là est venue des envies de voyage un peu plus lointaines. Mais au début, c'était des petits projets, des cabanes que je faisais dans mon jardin. Et cet imaginaire justement fictif de Tintin, mais qui m'a mis un peu le pied à l'étrier.
Ouais, donc c'est vraiment la lecture, c'est pas tes parents qui t'ont emmené aussi sur les routes du monde quand tu étais enfant?
Bah, un petit peu les deux aussi, parce qu'il y a eu les lectures en premier lieu, mais il y a eu aussi, oui, effectivement, l'environnement familial qui a fait que j'ai reçu une éducation, on m'a un peu fait toucher à tout, et puis j'avais des parents aussi qui étaient des voyageurs, et donc j'ai grandi aussi dans cet univers du voyage. On a eu la chance de voyager avec ma grande sœur et mon petit frère et mes parents assez jeunes, qui nous emmenaient un petit peu sur les routes, souvent dans les voyages un petit peu routards, parce que c'est la manière dont ils aimaient voyager. Et puis aussi, moi j'ai vu en grandissant mes parents partir à l'étranger pour leur métier. Ils sont tous les deux médecins, mais ils ont fait pas mal de missions humanitaires à l'étranger, et je voyais ma maman partir comme ça quand j'étais au collège. Elle partait un mois au Mali, au Burkina Faso ou au Vietnam pour exercer son métier. Et quand on voit ça en étant tout jeune et enfant, et ben on se dit en fait que c'est normal quoi. Et donc c'est cet aussi environnement familial qui m'a poussé aussi vers l'aventure et le voyage.
Ok, ouais, donc ce virus de l'aventure ne vient pas de nulle part, mais toi tu l'as poussé un peu à l'extrême, parce qu'on va reprendre différents de tes voyages, et il y en a, c'est des vraies expéditions. On va peut-être revenir à ton premier voyage solo avec tes copains, la première fois où tu voyages pas dans un cadre familial, c'était quoi et quel était le projet?
Le premier voyage que j'ai entrepris et qui était vraiment un petit peu le début de ma vie d'aventurier, c'était un voyage que j'ai entrepris à vélo, où je suis parti de Budapest en Hongrie pour rallier Istanbul en Turquie. C'était un voyage que j'ai fait tout seul juste après mon bac. Et j'avais été inspiré par un garçon qui était un peu plus âgé que moi et qui lui était parti de Rouen, qui est ma ville natale en Normandie, pour aller jusqu'à Hanoï au Vietnam à vélo. Et j'avais suivi son périple qui avait duré donc quasiment 12 mois et j'étais complètement fasciné en fait à l'idée de me dire que c'était possible de traverser des pays, voire des continents à la force des jambes. Et quand il est rentré, je lui ai demandé s'il accepterait de me prêter son vélo pour moi à mon tour vivre ma propre aventure, mais plus compacte, plus accessible. Donc c'était en Europe de l'Est à vélo. Et donc je suis parti un mois. Et pourquoi vers Istanbul? Parce que pour moi c'était la fin de l'Europe, le début de l'Asie. Donc c'était une manière un peu romantique de me dire voilà, je vais découvrir un nouveau continent, ou en tout cas aller au bout d'un continent. Et c'était une aventure qui était fabuleuse parce que moi j'avais très peu d'expérience. Je connaissais pas le voyage itinérant, encore moins les longues distances à vélo. Mais je me suis dit que voilà, c'était maintenant, et donc j'ai acheté des affaires sur le bon coin, une sacoche, un réchaud, j'ai pris le sac de couchage que j'avais dans mon placard et que j'utilisais quand je faisais mes camps scouts, et puis je suis parti comme ça à l'aventure. Et finalement je me suis juste persuadé que je savais que j'étais pas prêt, mais que le bon moment c'était maintenant, et que si j'attendais forcément d'être prêt ou trouver un copain ou être super sportif, bah je le ferais jamais en fait. Donc je me suis plutôt dit bah vas-y, on y va, et puis quand je serai fatigué bah j'arrêterai, et puis si c'est trop long bah je rallongerai, et c'était ma première aventure, et de cette aventure là est né plein d'autres projets derrière.
Et donc cette première aventure, c'était vraiment une manière pour toi de te rencontrer aussi en tant qu'aventurier sans forcément avoir un projet d'écriture ou de film, ce qui a été le cas par la suite?
Ouais, aucunement. Au début c'était vraiment des aventures qui étaient très amateurs, quoi. Je partais pour moi, je partais pour effectivement me chercher aussi d'une certaine façon, et bon, je documentais quand même mes voyages assez tôt, parce que tout de suite moi je m'étais pris au goût un petit peu de l'écriture, de faire des images, mais sans avoir l'idée de faire des publications ou de diffuser des documentaires. Ça paraissait vraiment très très loin de moi. Évidemment, j'avais 18 ans, j'étais animé par des envies de voyage, mais l'idée d'en vivre ou l'idée de voilà toucher un autre public que mon cercle rapproché amical et familial, voilà, c'était pas le sujet. Et puis j'avais la chance de faire des études aussi en parallèle, donc j'étais aussi occupé par ça, et j'utilisais le temps que j'avais de disponible sur mes vacances pour faire des aventures, mais que voilà, j'autofinançais en travaillant comme serveur dans un restaurant, et puis avec le peu de sous que je gagnais je partais. Mais c'était pour moi le projet, c'était pour moi d'accumuler de l'expérience de voyage, de découvrir des choses, et puis on verrait bien ce que ça donnerait. Mais je me reposais beaucoup sur mes études en me disant voilà, j'essaie de mener les deux de front, et on verra bien ce que ça donne.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, je crois que tu es aventurier à temps plein. Je sais pas si tu as continué tes études. D'ailleurs, tu étudiais quoi à ce moment-là?
Ben oui, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir fait de l'aventure une activité. Alors, aventurier, ça veut tout et rien dire, hein. Moi, mon métier consiste à faire des aventures, des expéditions, et à ramener des histoires que je partage sous la forme de conférences, de livres et aussi de documentaires. Mais aujourd'hui, le métier d'aventurier, c'est un métier à plusieurs casquettes, quoi. Il faut un petit peu toucher à tout. C'est un métier à la fois de communicant, mais aussi de marketeux, quoi. Il faut réussir à trouver des partenaires, des sponsors, se vendre. Donc aujourd'hui, l'exploration géographique au premier sens du terme, elle est un peu révolue, quoi. Donc on essaye de faire des aventures qui portent des messages, qui portent des causes, et donc voilà, c'est devenu mon activité. Mais j'ai avant ça fait des études parce que j'avais la possibilité de le faire, que j'avais la chance d'avoir des parents aussi qui me soutenaient pour les faire, et aussi parce que plus personnellement, plus intimement, moi ça me rassurait. C'était j'assumais pas vraiment l'idée que je voulais faire de ma vie, enfin que les aventures voulaient, je voulais mettre les aventures au centre de ma vie pro, quoi. C'était difficile en fait, la voie elle est pas aisée, elle est pas toute tracée, il y a pas d'études pour devenir aventurier. Donc j'ai suivi comme ça un parcours étudiant où je faisais de la science politique. Et après, je me suis spécialisé en sécurité internationale, donc tout ce qui touche aux risques terroristes, aux menaces modernes, au monde de l'humanitaire. Et j'ai fini mes études par faire un stage chez Médecins Sans Frontières, où là, j'étais attiré aussi par le monde de l'humanitaire, et ça aurait pu être une voie que j'aurais suivie. Voilà, la vie en a fait autrement, mais aujourd'hui, voilà, c'est les aventures, c'est les expéditions.
Ouais, je veux bien qu'on définisse quand même le mot aventurier, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment un métier. Puis je pense aussi à le mot explorateur, donc peut-être différencier les deux.
Bah oui, absolument, c'est deux mots qui sont souvent employés. Pour moi, il y a une différence fondamentale. C'est l'exploration aujourd'hui, si on parle de la géographie, bah elle est, comme je le disais, elle est un peu révolue, sauf si on est Thomas Pesquet et qu'on va dans les étoiles, sauf si on va aussi au fond des abysses. Aujourd'hui, les fonds marins, on les connaît assez peu. Il y a plein d'espèces marines qu'on ne connaît pas. Donc là-dessus, pour moi, il reste de l'exploration à faire. Mais sinon, pour moi, elle a changé d'échelle. On est vraiment soit dans l'infiniment grand, le spatial, soit dans l'infiniment petit. On va se situer plutôt dans l'atome, donc ça va être de la science. Moi, aujourd'hui, je fais ni l'un ni l'autre, donc je me considère pas être un explorateur. Quand les gens me disent, voilà, vous êtes un explorateur, je les trouve gentils, et je comprends le terme, parce que c'est vrai qu'il est, il fait rêver. Mais aujourd'hui, moi, même quand j'ai fait une expédition en Antarctique, quand je suis arrivé au pôle sud, je suis tombé nez à nez avec une base scientifique qui était en place depuis 1956. Donc voilà, j'ai rien exploré, j'ai rien cartographié. J'ai peut-être emprunté un itinéraire qui avait été peu fait avant moi, et j'ai peut-être vu des choses qui n'avaient pas été vues par beaucoup d'humains, mais j'ai pas fait avancer la science, j'ai pas cartographié, j'ai pas découvert une nouvelle terre. Donc je me retrouve plus dans le mot aventurier, dans les aventures. Moi, je considère plus que je fais des aventures, et que mon rôle, il est de témoigner, il est de raconter, il est de transmettre. Et ça passe par plein de canaux différents. On le disait, les conférences, les livres, les films. Là, on est dans un festival qui s'appelle Curieux Voyageurs, et on est entouré de plein de gens qui font ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a besoin justement des voyageurs, on a besoin de témoins, on a besoin d'ambassadeurs qui sont capables justement de sensibiliser, de raconter, de témoigner par l'émerveillement. Et c'est un petit peu le rôle que j'essaye de me donner.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ok, on va revenir un peu sur tes différents projets, mais je vais quand même, comme on parle d'aventure et d'exploration, tu fais partie de la Société française des explorateurs. Et à un moment donné, tu étais le plus jeune donc des explorateurs, tu me disais que c'est plus le cas aujourd'hui. C'est quoi cette société et comment est-ce qu'on rentre dans ce club ?
Alors, ça s'appelle effectivement la Société des explorateurs français. Ça a été créé en 1937 par des gens comme Paul-Émile Victor, comme le commandant Cousteau, donc des figures de l'exploration du siècle passé. Et à l'origine, c'est un club de spécialistes des pôles, des spécialistes des volcans, des spécialistes des jungles, et ils se sont retrouvés pour échanger, pour partager, si vous voulez, les bonnes pratiques, ou alors partager des récits, partager des découvertes. Et ça a évolué au fur et à mesure du temps, et aujourd'hui il y a à peu près 250 membres. Il y a un bureau qui est basé à Paris avec des événements récurrents. Il y a une conférence tous les mois qui est organisée à la Société de Géographie, où un des membres de la Société d'Explorateurs vient rendre compte de son dernier voyage ou de son dernier documentaire. Il y a un festival de films qui a lieu à La Ciotat aussi, dans le plus vieux cinéma du monde, qui s'appelle le cinéma des Frères Lumière, c'est le cinéma Eden. Et là, c'est un festival d'exploration scientifique, donc si on peut y participer, si on a des films sur l'exploration scientifique, on n'est pas forcément besoin d'être membre de la Société d'Explorateurs, mais c'est la Société d'Explorateurs qui parraine ce festival. Et aujourd'hui, c'est toujours une association. On dit société, mais c'est plutôt juridiquement, c'est une association. Et pour y rentrer, il faut avoir une activité professionnelle qui tourne autour soit de l'exploration, soit de l'aventure, soit du voyage. La différence avec ceux qui en font, c'est que pour en faire partie, il faut avoir publié, il faut avoir fait des études, il faut avoir fait des documentaires sur des chaînes de télévision. Et puis après, il faut essayer de se manifester, et puis on peut vous faire signe. Donc c'est une vieille dame, hein, ça date de 1937. Moi, tu le disais, je suis parmi les plus jeunes membres, donc... Ça demande aussi des nouvelles compétences, des nouveaux métiers, donc il faut se signaler pour en faire partie.
Tu as quel âge, Mathieu, aujourd'hui ?
Moi, j'ai 31 ans.
Tu disais avant, le métier d'aventurier, c'est quelque chose d'assez complexe. On se retrouve marketeur, communicant, donc il ne s'agit pas juste de voyager. Et comment est-ce que tu as appris tout ça, finalement ?
Un peu sur le tas, quoi, j'ai envie de dire. Moi, j'ai fait des études de sciences politiques, donc... tout ce que j'ai appris à l'université, je l'utilise pas vraiment aujourd'hui, si ce n'est que j'ai appris à parler des langues, j'ai appris aussi peut-être à synthétiser ma pensée, mais j'ai pas fait une école de commerce, c'est vraiment des choses que j'ai appris en faisant, tout simplement. La recherche de partenaires, de sponsors, c'est pas quelque chose qui est simple, mais quand vous prenez 150 refus d'affilée, vous essayez d'affiner vos techniques, et puis après vous comprenez un peu les manières d'aborder peut-être ce sujet là donc moi c'est venu en faisant, tout simplement. J'ai appris à faire un petit peu des photos comme ça, en faisant. J'ai pas fait d'école de photo, après voilà, Ça s'est fait aussi à force de regarder comment les autres faisaient. C'était très amateur au début. Et puis, il y a eu un premier prix qu'on a gagné avec un film justement sur la 4L, Tour du Monde en 4L, pour promouvoir le microcrédit. Et quand on a gagné ce prix, la chaîne de télé Ushuaïa TV s'est rapprochée de nous. Et puis là, ça m'a lancé un petit peu. Donc, c'est à force d'en faire. Et puis, en participant dans les festivals, en participant... Justement à des événements que la machine s'est enclenchée. Mais je pense que c'est le fruit de pas mal de travail, de galères et puis après évidemment un peu de chance, bien sûr.
Alors là, on est au festival Curieux Voyageur. Tu es derrière un bouquin qui raconte un petit peu une aventure que tu as vécue en Antarctique. On en parlera un peu plus tard. Donc je reviens un peu à l'origine. Tu parlais de Tintin, qui a été pour toi une source d'inspiration. T'as peut-être ta famille aussi, tes parents qui voyageaient. Premier voyage à vélo. Et ensuite, donc c'est en 4x4, c'est ça, pas en 4x4, en 4L, c'est ça. Donc c'est quoi ce projet de 4L, le tour du monde en 4L pour promouvoir le microcrédit? Microcrédit, je pense à Mohamed Younous, hein, c'est ça?
Ouais, mais j'étais étudiant et j'étais un peu frustré en fait à l'idée de partir à l'aventure que pendant mon temps libre. Et du coup, j'avais l'idée de prendre une année off, une année sabbatique pour réaliser un grand projet, un grand voyage. Et j'ai demandé au directeur de mon université s'il était possible justement de prendre ce temps. Et il a accepté parce qu'on avait un projet de voyage, un projet de tour du monde pour soutenir une cause qui était la microfinance. Donc le projet était de partir avec mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas. On a pris une 4L et on a fait tout le tour de la Terre en traversant une grande partie de l'Asie. Une fois qu'on est arrivé au bout de l'Asie, on a mis la voiture dans un conteneur qui a traversé le Pacifique. On a atterri à San Francisco en Californie et de là on a pu descendre vers le sud, vers le Brésil, en traversant donc l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, une petite partie de l'Amérique du Sud. Et au Brésil, à Rio de Janeiro, on a trouvé un bateau sur lequel on est monté avec la 4L. On a traversé l'Atlantique pour aller à Dakar au Sénégal et de là on est remonté en Europe vers la France. Donc c'était vraiment une boucle comme ça tout autour de la Terre. Et on avait envie de faire ça avec Nico parce qu'évidemment on était curieux, on avait envie de voir le monde de nos propres yeux, mais on avait aussi envie de se rendre un peu utile à notre manière, à notre façon, essayer d'avoir un fil rouge. Et donc la cause du microcrédit, elle est venue en s'intéressant à ce qu'on pourrait faire sur place, s'intéresser à comment essayer de rencontrer aussi des gens qui sont entrepreneurs, qui ont des besoins. Et donc on a récolté 25 000 euros avec des partenaires surtout normands, parce qu'on est normands tous les deux. Et ces 25 000 euros-là, on les a prêtés à 150 micro-entreprises, micro-projets sur notre itinéraire. Et notre ambition, c'était d'aller rencontrer ces entrepreneurs et expliquer, regarder, questionner ce levier de développement qu'est la microfinance. Et donc, on a pris une caméra, on a pris un carnet de notes, un appareil photo. Et on a rencontré des hommes et des femmes qui avaient plein de projets d'entrepreneuriat. Quoi. Il y avait des restaurateurs, des cordonniers, des coiffeurs, des agriculteurs. Il y avait plein de typologies d'activités différentes. Et on était accompagnés par des institutions de microfinance sur place parce qu'on ne parlait pas forcément la langue locale. Donc, tels des petits enquêteurs, en fait, on regardait comment la microfinance fonctionnait et on faisait notre petite enquête et ça a duré un an et on en a rapporté donc un film qui s'appelle Microcrédit en 4L et un livre qui s'appelle Microcrédit en 4L aussi. Et c'est de ce projet étudiant, en fait, est née une ambition d'en faire un peu un métier parce que voilà, ça a dépassé toutes nos attentes en termes d'intérêt, d'engouement et ça a commencé comme ça un petit peu.
Okay, donc c'est suite à ce gap dans tes études où vous partez tous les deux que tu choisis de devenir quelque part aventurier professionnel.
Ouais, alors aventurier professionnel, oui, exactement, ouais, mais de faire de l'aventure une activité, ouais, ça a été un petit peu le point de départ. Ça a été le tournant en fait un petit peu entre les aventures très amateurs où je faisais des voyages à vélo, des transats à la voile, des descentes de fleuves en kayak, des choses que je faisais vraiment sur mes vacances qui nécessitaient pas non plus des moyens énormes. Parce que quand je traversais l'Atlantique, j'étais équipier, je rejoignais un skipper qui avait besoin de quelqu'un pour ramener un bateau. Et après, j'étais plus à la moteur pour faire des projets un peu plus ambitieux qui nécessitaient peut-être plus de moyens, plus de résonance médiatique. Le tour du Mont 4L a été clairement le tremplin.
Est-ce que tu arriverais à me dire pourquoi tu as fait le choix de trouver une activité économique autour du voyage et de l'aventure? Qu'est-ce qui fait que tu te lances là-dedans à temps plein?
Pourquoi? Parce que je pense qu'au fond, ce qui m'anime aussi, c'est le goût de l'entrepreneuriat. Je crois que pour faire de l'aventure, pour vivre du voyage, il faut avoir un peu un esprit d'entrepreneur. Quoi. Il faut... Parce que c'est difficile d'en vivre. Est-ce que ça a été un choix? Je crois que ça s'est un petit peu, j'ai eu la chance, ça s'impose un petit peu à moi à un moment parce que il y a eu cette expédition au pôle sud dont on va peut-être parler, mais où je suis rentré et en fait il y a eu vraiment un déferlement un peu médiatique que jamais j'aurais pu imaginer. Vraiment, j'étais très très surpris de toute l'attention qu'il y avait eu autour de ce projet, que t'as un projet personnel. Et quand j'ai vu voilà, toutes les sollicitations qui venaient à mon endroit, je me suis dit, bah, en fait, il y a quelque chose à faire, quoi. Et donc ça s'est imposé à moi parce que rapidement on m'a demandé des conférences et moi c'est un exercice que j'aime bien faire aussi, donc j'ai déployé de l'énergie en fait pour me structurer et en faire une activité. Mais il y a rien d'acquis, il faut multiplier les projets, s'intéresser à d'autres choses, se renouveler, donc il y a rien qui est simple. Mais aujourd'hui je m'épanouis comme ça et ça marche de cette manière, donc on verra quelle sera la suite. Mais je me vois difficilement faire marche arrière et aller dans un monde où je serais salarié, où je répondrais à des demandes, des ordres. Je sais, voilà, j'aime bien le côté un peu libre de cette activité.
Alors ce projet, on va en parler. C'est comme ça que je t'avais rencontré sur un festival en Normandie ou dans le Nord Pas-de-Calais, je ne sais plus trop. Et effectivement, donc tu as traversé l'Antarctique à pied pour aller jusqu'au pôle Sud, c'est ça ?
Ouais, alors j'ai fait une expédition en partant de la côte du continent antarctique pour aller jusqu'au pôle Sud dans des conditions un peu particulières, parce que j'avais fait le choix de partir tout seul et sans ravitaillement, ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas de nourriture qui était prédisposée tout le long de l'itinéraire. Ça faisait 1200 km au total. Et donc je suis parti comme ça en novembre 2018 avec cette envie, ce rêve d'atteindre l'axe de rotation de la Terre. Et je suis pas parti en claquant des doigts, évidemment. J'ai beaucoup travaillé pour trouver des sponsors, des partenaires, pour m'entraîner aussi, parce que l'Antarctique, c'est le continent un peu de tous les extrêmes, hein. C'est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux de la planète. Donc il faut partir en connaissance de cause et préparer. Donc ça a été un long apprentissage. Je me suis d'abord formé en Norvège, dans les Alpes, et puis après au Svalbard, qui est un archipel d'îles norvégiens très au nord en Arctique, en me faisant accompagner par un guide pour apprendre les bonnes techniques, les bons réflexes, les bonnes pratiques pour survivre dans cet univers polaire. Et voilà, en novembre 2018, je suis parti tout seul vers le pôle, et c'est une expédition qui a duré 51 jours. Et j'en ai fait un film qui s'appelle Objectif Pôle Sud, et un livre qui s'appelle Le Continent Blanc. Et c'est une aventure, oui, qui était extraordinaire à tous les sens du terme, parce que c'est vraiment l'aventure un petit peu de tous les superlatifs, quoi. La plus solitaire, la plus extrême, la plus longue. Et ouais, c'était fabuleux de voir ce continent et d'expérimenter aussi la solitude sur une longue durée. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. J'étais assez curieux, en fait, de voir ce qu'allait représenter, justement, le fait d'être seul pendant 51 jours. C'est quelque chose qui n'arrive jamais dans la vie, et voir quelles ressources j'allais être capable de mobiliser. Donc, c'était une aventure complète, quoi, qui était à la fois sportive, mais aussi géographique, parce que dans un continent très, très peu visité, très difficile d'accès, et puis évidemment intérieur, parce qu'en 50 jours, forcément, on se retrouve face à soi.
Pour qu'on prenne conscience un petit peu de ce périple, de cette aventure, que tu nous emmènes avec nous dans une journée type. Voilà. Essayer de recréer un petit peu une dimension visuelle. Donc on se réveille le matin, quelle heure il est, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, comment ça se passe, quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer dans la journée, les moments de joie, les moments de galère. Voilà. Donc sur une journée, essaie de nous embarquer.
Une journée en Antarctique, c'est une journée où il fait jour tout le temps, parce que pendant l'été austral, il fait jour 24 heures sur 24. Une journée en Antarctique, c'est une journée qui est monochrome ou bicolore. Donc s'il y a des nuages, c'est tout blanc, gris. S'il fait beau, c'est blanc au sol et bleu dans le ciel. mais c'est les seules couleurs qu'on puisse voir, parce que le cœur de l'Antarctique, c'est un gigantesque désert. La côte de l'Antarctique, il y a des animaux, il y a des glaciers, il y a des icebergs, il y a l'océan. Mais le cœur de l'Antarctique, c'est un désert gelé immense qui est tout blanc. Donc moi, mes journées se ressemblaient les unes après les autres, parce que j'évoluais dans cette immensité blanche. Et je me levais tôt, je me levais à 6h du matin, je mettais 1h30 à petit déjeuner, m'habiller, démonter ma tente, tout empaqueter et repartir à ski. Donc j'essayais de partir à 7h30 le matin et je skiais comme ça pendant 12 heures d'affilée. Donc je faisais 12 heures de ski tous les jours, où je segmentais mes journées en sessions de 55 minutes de ski. Donc je skiais pendant 55 minutes, ensuite je faisais une pause de 5 minutes dans laquelle je mangeais, je buvais un coup. Et je repartais comme ça pour une session de 55 minutes. J'en faisais 6 le matin, 6 l'après-midi. Et je déjeunais pendant une demi-heure le midi. Et skier consiste à avancer tout droit en suivant un cap, donc le pôle sud en l'occurrence, avec une boussole, à écouter des podcasts, de la musique, à se perdre dans ses pensées, et à répéter l'opération tous les jours pendant 51 jours. J'ai pas pris un seul jour de repos pendant 51 jours et ça a été une année difficile en 2018, puisqu'il y a eu un enneigement exceptionnel pour l'Antarctique. C'est une année où il a fait très chaud, 25 degrés au-dessus des normales de saison, donc une espèce d'anomalie jamais observée auparavant en Antarctique de l'Ouest. Donc le fait qu'il fasse chaud, c'est un peu contre-intuitif, mais ça entraîne beaucoup de neige. En fait, il y a un phénomène où l'océan austral s'évapore davantage et donc amène plus d'humidité dans les nuages. Et ces nuages, en passant au-dessus de l'Antarctique, se transforment non pas en pluie, mais en neige. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de neige. Et moi, mon traîneau pesait 115 kg au départ avec la nourriture. Et forcément, quand on tire 115 kg dans une neige poudreuse, dans une neige fraîche, telle une enclume, quoi, ça ralentit énormément la progression. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai skié beaucoup plus que ce que j'avais imaginé, donc 12 heures par jour, et que je me suis assez peu reposé parce que j'étais en retard sur mon programme. Et ensuite, j'ai arrêté donc mes journées de ski vers 19h30, 20h. Je remontais la tente, ça c'était assez rapide. Je faisais fondre de la glace et de la neige avec un réchaud. J'obtenais de l'eau. Avec cette eau-là, je la faisais bouillir. Je la mettais dans des repas qu'on appelle des repas lyophilisés, qui est de la nourriture déshydratée. Et là, je dînais. Ensuite, j'écrivais un petit peu dans un carnet de bord qui était sur mon téléphone pour pouvoir envoyer un message à mon équipe en France, avec une photo qui pouvait, elle, le relayer sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, et ça permettait aux partenaires, aux sponsors et aux gens qui suivaient l'expédition de pouvoir la suivre en direct. Donc j'envoyais comme ça quotidiennement du contenu. Et puis quand j'avais fini ça, je dormais le plus rapidement possible, et je dormais pas tant que ça, je dormais entre 6h30 et 7h30, donc ça faisait des longues journées, des petites nuits, et voilà, c'était le quotidien pendant quasiment 2 mois.
Et là, c'est plat, tu pars de skier tous les jours plusieurs heures, ou est-ce qu'il y a des crevasses à passer, des cols à monter, ou est-ce que c'est vraiment un horizon blanc et plat?
Ouais, alors l'Antarctique, c'est une immense calotte polaire, ça fait 26 fois la taille de la France, c'est un continent qui est pas plat, le pôle sud, il est à 2850 mètres d'altitude, donc c'est un continent qui est recouvert de glace et de neige. Il y a tellement de glace et tellement de neige que quand on est au pôle, on a 3 km d'épaisseur de glace sous ses pieds. Donc moi, je suis parti du niveau de la mer, donc à peu près du niveau zéro, pour me hisser jusqu'à 3000 mètres d'altitude quasiment, mais c'est lissé sur 1200 km, donc finalement c'est pas les Alpes quoi. C'est assez graduel comme ascension, c'est une ascension qui est permanente mais qui est graduelle. Moi, j'ai eu qu'une petite descente sur toute l'expédition, et le danger principal, c'est effectivement la présence de crevasses. Donc les crevasses, c'est des grandes brèches, des grands trous qui s'ouvrent avec les mouvements de la glace. Souvent, elles sont recouvertes de ponts de neige. Ponts de neige, c'est de la neige qui vient s'accumuler à l'entrée de la crevasse et qui vient masquer en fait ces grandes brèches. Donc on apprend à les repérer, on peut les éviter et on peut les repérer aussi par satellite. Moi, j'avais des bonnes images satellites du terrain qui me permettaient d'identifier géographiquement où se trouvaient les grandes crevasses. Donc ça me permettait de louvoyer, de les éviter, et c'est le danger principal. Après, le deuxième danger, ça va être le froid ou le vent. C'est le vent qui va vraiment accentuer la sensation de froid et qui peut emporter du matériel aussi, donc il faut être très vigilant dès que le vent se lève.
Mais cet isolement, jamais on peut vivre ça dans nos vies en France. À aucun moment on peut se retrouver aussi longtemps sans voir personne. Comment est-ce qu'on vit ça intérieurement?
Non, jamais. C'est vrai que c'est pas donné, ça nous est pas donné à vivre facilement. Après, je crois que les gens qui font des retraites en silence des expériences de méditation peuvent se retrouver aussi dans cet isolement et dans cette quête un petit peu intérieure. Il n'y a pas besoin forcément d'aller au pôle sud comme je l'ai fait. Mais moi, je l'ai bien vécu parce que c'était une recherche perso. J'avais une vraie curiosité, un vrai enthousiasme à me retrouver seul. Je suis pas parti seul parce que j'ai trouvé personne avec moi. Je suis parti seul parce que c'était une voilà le projet quoi. C'était j'avais fini mes études, j'avais 26 ans. C'était un moment dans ma vie où c'était intéressant pour moi de faire un pas de côté. Et je trouvais que c'était en fait une vraie chance quoi de s'octroyer autant de temps pour soi et rien que pour soi, sans téléphone qui sonne, sans notification, sans rendez-vous. Et donc je l'ai vécu avec beaucoup de légèreté en fait cette solitude et je regrette pas une seule seconde et je pense que je l'ai bien vécu aussi parce que c'était une solitude qui était choisie, qui était encadrée dans le temps, c'est-à-dire que je savais que ça allait durer 50 jours maximum parce que j'avais 50 jours de nourriture avec moi donc je pouvais pas faire beaucoup plus. Et en revanche, si on m'avait dit Mathieu, voilà, on te dépose sur une île déserte et on vient te chercher quand on vient te chercher, et là moi j'aurais eu du mal à pas devenir fou parce que c'est difficile de gérer cette solitude quand on sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Moi je savais que j'avais 7 semaines et qu'il fallait se structurer et s'organiser du mieux que possible pour la vivre, et je l'ai vécu comme une grande chance en fait, comme quelque chose de nouveau mais comme quelque chose d'assez unique.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir.
Et là, tu reviens de l'Antarctique. Ouais. Et là, je reviens d'Antarctique. Ouais. Il y a encore 10 jours, j'étais en Antarctique. Et donc, j'ai eu la chance d'intégrer un équipage pour aller naviguer en péninsule antarctique. Donc, la péninsule antarctique, c'est le bras de terre de l'Antarctique qui remonte vers l'Amérique du Sud. Et on est parti d'Ushuaia, donc la pointe sud de l'Argentine, pour traverser un passage qui s'appelle le passage de Drake, et qui est un passage assez mouvementé entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, pour aller en péninsule antarctique et atteindre une baie qui s'appelle la baie Marguerite. Alors la baie Marguerite, c'est très au sud sur la péninsule, c'est difficile d'accès, c'est rare d'y aller en voilier, il y a très peu de voiliers qui y vont, pour la simple et bonne raison qu'il faut prendre du temps. On a mis 2 mois à faire ce voyage, et le projet était... assez diffus, puisque à bord il y avait un photographe, il y avait une réalisatrice de documentaires, il y avait une spécialiste des questions de faune et de biodiversité, il y avait un ancien hivernant de Dumont d'Urville, donc c'est quelqu'un qui a passé toute une année dans une base scientifique en Antarctique qui s'appelle Dumont d'Urville, qui est en Terre Adélie. Donc on était comme ça un équipage avec des compétences différentes, avec des motivations différentes, mais avec tous l'envie de raconter quelque chose sur l'Antarctique avec nos propres compétences. Et donc moi j'étais à la manœuvre sur un projet scolaire où en fait je suis administrateur dans une fondation qui fait de la sensibilisation sur les mondes polaires pour la jeunesse. Et donc on a noué comme ça un partenariat avec des centaines d'écoles, et il y a 16 500 écoliers qui nous ont suivis toutes les semaines, avec lesquels on était en lien, on envoyait du contenu, des photos, des textes, des sons, et donc c'était assez chouette de pouvoir leur faire vivre l'aventure de l'intérieur.
Alors l'Antarctique, en quelques adjectifs, raconter un enfant, c'est quoi ? En quelques mots ?
En quelques mots, c'est blanc, c'est manchot, c'est baleine, et c'est merveilleux, quoi. C'est un endroit où la faune est pas chassée, et elle n'est plus chassée, hein, parce qu'il faut bien se souvenir de l'époque des fauquiers, des baleiniers qui venaient chasser là-bas pour éclairer nos villes. Donc c'est un endroit aujourd'hui où la faune est préservée, donc elle est riche. Pendant l'été austral, elle se reproduit, elle donne naissance aux petits, donc c'est un bouillonnement de vie. Et donc quand tu y vas, les animaux, comme ils sont pas chassés, ils ont pas peur de l'homme, donc il y a une interaction qui est assez rare avec eux, puisque les animaux vous acceptent. C'est un univers qui est merveilleux parce que c'est constellé d'icebergs, c'est constellé de glaciers, de hauts sommets. Et c'est un univers aussi où l'homme travaille dans des bases scientifiques. Donc il y a tout un tas de petites bases scientifiques dans lesquelles on a pu s'arrêter et échanger avec les scientifiques sur place. Donc c'est très beau. On a un peu l'impression de voir le monde comme au premier jour, quoi. C'est très préservé.
Tu disais, une vie d'aventurier, c'est toujours se repenser et essayer de trouver de nouvelles idées, de nouveaux projets. Donc là, j'entends beaucoup de projets dans des lieux froids. Tu continues dans les pays froids ou quelle est la suite ?
Bah, la suite, moi, elle va. Tu t'as donné la réponse. Elle va se concentrer surtout dans les mondes polaires. Moi, c'est des mondes qui me fascinent et c'est aussi des mondes qui sont en première ligne du réchauffement climatique. On sait que l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que les autres endroits sur Terre. Donc, c'est des endroits qui sont emblématiques de ces bouleversements que la Terre connaît aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai envie de continuer à porter la voix des pôles. J'ai envie de continuer d'avoir ce rôle un petit peu de témoin, d'ambassadeur peut-être, et donc mes prochains projets se dirigeront, seront tournés toujours vers l'Arctique et l'Antarctique. Aujourd'hui, moi, je suis administrateur de cette fondation, donc à titre bénévole, j'accompagne justement cette fondation qui fait de la sensibilisation sur les mondes polaires pour la jeunesse, et donc mes projets vont aller dans ce sens-là.
Cette notion aussi de remettre du sens dans tes voyages et tes déplacements.
Bah ouais, du sens, d'avoir une forme aussi d'utilité. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de la communauté scientifique qui alerte, qui est absolument indispensable, mais on a aussi besoin de témoins, de passeurs d'histoire, parce que le grand public, il a peut-être un peu du mal parfois à se sentir concerné, parce que parfois c'est des enjeux qui nous semblent loin de nous. Et en fait, par le biais du documentaire, par le biais de la conférence, par le fait d'incarner ces causes-là aussi, ça permet, je crois, vraiment des prises de conscience ou des changements de comportement ou de la sensibilisation. Et j'interviens aussi beaucoup dans les écoles pour porter ces messages-là. Et je crois qu'on a besoin de tout le monde, qu'on a besoin des scientifiques, des entrepreneurs, des politiques, des artistes, des aventuriers, des explorateurs. Donc j'essaye de jouer à mon humble échelle ma part à ce sujet.
Mathieu, merci beaucoup.
Ouais, de rien.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.